Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se faire une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deux annonces avant le cours. D'abord, pour les retraites de l'année 2022, donc la retraite de Pâques du 25 avril au 30 avril est pleine. J'ai encore une place pour la retraite du mois de juin, du 6 au 11 juin. J'ai encore des places pour les trois autres retraites, du 16 mai au 21 mai, du 12 septembre au 17 septembre, du 3 octobre au 8 octobre. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, pour que je puisse m'organiser. N'oubliez pas que je n'ai que 6 chambres dans le gîte que je loue pour les retraites, et donc je suis vite plein. Deuxièmement, j'ai commencé une série de conférences que j'ai intitulée « Synthèse du modernisme » en prenant comme base le serment antimoderniste de 1910 du pape Saint Pie X. C'est une conférence que je donne une fois par mois quand je vais assurer la messe chez nos fidèles de côté de Cahors et à côté de Montpellier. Pour ceux que ça intéresse, ces conférences d'une heure, il y en aura, je pense, peut-être une dizaine. Elles sont sur le site d'Âme Marie sous l'onglet conférences doctrinales. Voilà. Donc reprenons le cours d'exégèse. Explication de l'évangile selon saint Jean d'après les pères de l'Église sur le polycopier qui regroupe les textes des pères de l'Église pour les cinq premiers chapitres de saint Jean. Nous en sommes à la page 50. Saint Jean, chapitre 4, versets 35 à 38. Je vais peut-être pouvoir aujourd'hui peut-être terminer le chapitre 4 de saint Jean. Au revoir. Donc, Saint Jean 4, 35 à 38. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, la moisson viendra. Voici ce que je vous dis. Levez vos yeux et voyez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Que celui qui moissonne reçoit une récompense et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi bien que celui qui moissonne. Car ici se vérifie cette parole, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leurs travaux. Donc encore une fois, notre Seigneur va partir de choses toutes simples, comme les moissons qui mûrissent sous le soleil de Palestine et montent à une autre moisson, la moisson spirituelle, la moisson des âmes. Voilà ce que disent les pères. Notre Seigneur se sert des choses les plus ordinaires pour les élever à la considération des vérités les plus sublimes. Les champs et la moisson sont ici la figure des âmes qui sont prêtes à recevoir la parole de la prédication. La grâce ne détruit pas la nature, mes bien chers frères. Il ne faut jamais oublier ça. Pour que la parole de la prédication puisse donner du fruit, il faut que le terrain soit propice pour la recevoir. C'est comme une graine. Il faut que la graine puisse tomber dans un terrain bien préparé. Si on jette la graine qui va tomber sur un terrain plein de pierres ou avec une terre trop dure, eh bien, on peut rien obtenir. Donc, attention à ce que le terrain de notre âme soit préparé à la prédication du ministre de Dieu, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est valable pour tout le monde, y compris pour les catholiques. Et c'est évident que si nos fidèles ne se confessent pas régulièrement, s'ils ne communient pas régulièrement, s'ils ne se battent pas pour rester en état de grâce, la grâce sanctifiante ne peut pas rentrer dans leur âme. Pour que la grâce puisse rentrer, il faut que la porte soit ouverte. Notre Seigneur ne rentre pas comme un voleur. Et donc il faut préparer le terrain. C'est le serment d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'enregistre ce cours le 6 février. C'était le 5e dimanche après l'Épiphanie. J'ai expliqué un petit peu ça en donnant des exemples de ce qu'il faut faire pour préparer notre âme à recevoir la parole de notre Seigneur. Et d'abord, il faut enlever les pierres. Les pierres qui sont très dures, c'est le symbole du cœur dur, du cœur dur, du cœur qui est rempli d'orgueil, rempli d'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme, surtout quand ils sont tous les deux dans une même âme, vont durcir l'âme qui sera incapable de recevoir la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut aussi ramollir la terre. Si la terre est trop sèche, la terre va devenir toute dure et la graine ne va pas pouvoir rentrer dans la terre. Donc il faut ramollir la terre. Comment est-ce qu'on ramollit la terre ? On tape dessus d'abord avec une herse, avec quelque chose, et puis surtout on l'arrose. Parce que l'eau va ramollir la terre et va permettre à la graine de rentrer dans la terre pour pouvoir germer. Comment ramollit-on la terre de notre âme pour la préparer à recevoir la grâce sanctifiante ? Et bien on ramollit cette terre par les ondées de nos larmes de compassion, de larmes de contrition, nos larmes de componction. Donc les larmes, étant formées par de l'eau, vont ramollir la terre de notre âme et permettre à l'âme de recevoir, d'être se préparer à recevoir la grâce du bon Dieu. Donc si une âme ne regrette pas ses péchés, n'a aucune contrition, au moins une contrition imparfaite pour ses péchés, c'est-à-dire qu'on regrette ses péchés à cause de la peur de l'enfer, eh bien cette âme ne peut pas recevoir la visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, il faut encore que le sillon soit droit, soit bien tracé. Ça représente la droiture d'esprit, la droiture d'intention. S'il n'y a pas cette droiture d'intention, il est évident que dans ce cas-là, la graine de la grâce sanctifiante ne peut pas germer. Et puis, il faut protéger la graine. Je fais remarquer ce matin en sermon que lorsqu'un agriculteur pose une graine dans son sillon qu'il a préparé, eh bien, il va tout de suite recouvrir la graine de terre fraîche afin que les oiseaux du ciel ne viennent pas manger la graine. Mais cette terre qui recouvre la graine et qui permet à la graine d'être protégée des oiseaux du ciel, c'est-à-dire des démons, cette graine recouverte par la terre, cette terre représente, dans ce cas très précis, la vertu d'humilité. C'est les pères de l'Église qui font remarquer que le terreau dans lequel la graine peut pousser, c'est le terreau de l'humilité, pas d'humilité, pas de moisson, parce que la graine ne peut pas pousser. Donc il faut préparer nos âmes. Et c'est ce que l'allusion que fait notre Seigneur Jésus-Christ à ces moissons qui blanchissent, ces champs qui blanchissent, qui se préparent pour la moisson. C'est le symbole de toutes les âmes qui vont venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Les yeux sont ici tout à la fois les yeux du corps et de l'âme. Car les disciples voyaient en effet les Samaritains qui accouraient en foule. La comparaison que notre Seigneur fait des dispositions de ces hommes avec les champs qui blanchissent est des plus justes, car de même que les épis blanchis n'attendent plus que la faux du moissonneur, ainsi ces hommes sont prêts à recevoir le salut. Donc il faut une préparation. Le prêtre doit donner les sacrements. Le rôle du prêtre, après son premier rôle qui est un rôle de prière, le rôle du prêtre c'est de préparer, c'est de donner les sacrements, mais donner les sacrements non pas à n'importe qui, attention. Le prêtre n'est pas un distributeur automatique des sacrements. Le prêtre est celui qui va donner les sacrements à des âmes préparées à les recevoir. Donc avant de donner les sacrements, le prêtre doit faire très attention de préparer ses âmes à recevoir les sacrements. Pour ça que le deuxième rôle du prêtre, après le rôle de prière, c'est le rôle de pénitence. Faire pénitence pour ouvrir sa propre âme, pour que sa prédication soit la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ et pas la sienne propre, pas celle du prédicateur lui-même. Et donc il faut d'abord le prêtre est un homme de prière, puis un homme de pénitence, puis l'homme de la prédication, encore une fois pour préparer les âmes, et enfin l'homme des sacrements. Puis s'il y a encore un peu de temps, l'homme de bonnes œuvres. Donc attention à ces choses-là, de bien réaliser que la grâce, ne détruisant pas la nature, il faut que le champ de notre âme soit préparé pour que la grâce puisse donner du fruit. Passons à la page 51. Sur le polycopier. Le cours ordinaire de la vie, s'il arrive que l'un sème et que l'autre moissonne, la joie n'est pas égale pour tous deux. Ceux qui ont semé s'attristent d'avoir travaillé pour les autres, et ceux qui moissonnent sont les seuls à se réjouir. Il n'en est pas de même ici. Ceux qui ont semé ne moissonnent pas, cependant ils partagent la joie de ceux qui moissonnent et reçoivent la même récompense. Souvent, le prêtre qui moissonne n'est pas celui qui va récolter, qui va récupérer le produit de la moisson. On le voit très bien dans la vie des saints. Ça m'a toujours frappé quand j'étais en Australie. Le patron de l'Australie, c'est un Français. Le patron de l'Australie, c'est Saint-Pierre Chanel. Saint-Pierre Chanel est en fait patron de l'Océanie. Quand j'étais dans les îles du Pacifique, j'ai missionné sur les terres qui avaient été sanctifiées par Saint-Pierre Chanel, qui est un martyr. Mais Saint-Pierre Chanel, il est mort aux îles Wallis et Futuna. Il a travaillé près des Fidji, des îles Fidji. Mais ce n'est pas là où il est mort. Il est mort à Wallis et Futuna. Et Saint-Pierre Chanel, c'est l'exemple typique d'un prêtre qui a missionné, qui a versé sa sueur et même son sang pour évangéliser les âmes de ces pauvres barbares à qui il prêchait, ces Indiens, qui étaient vraiment sur le plan moral très bas. Certains pratiquaient même l'anthropophagie. Et il n'a pas pu obtenir grand-chose, humainement parlant. Il a baptisé quelques enfants, quelques bébés qui allaient mourir. Si mes souvenirs sont exacts, il n'a pas pu baptiser un seul adulte. Il est mort martyr. Ses supérieurs ont ensuite envoyé d'autres missionnaires pour prendre sa place. Et les missionnaires qui ont pris la place de Saint-Pierre Chanel ont pu baptiser tous les Indiens de l'île. Pourquoi? Parce que le sang des chrétiens est une semence de chrétienté. Le sang des chrétiens est une semence pour la chrétienté, une moisson pour la chrétienté. Le sang des martyrs est une semence de chrétienté. Je crois que c'est Tertullien qui disait ça. Donc il y en a qui sèment, il y en a qui moissonnent, mais celui qui sème et celui qui moissonne travaillent pour le même roi, le même Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très ingrat pour un prêtre de semer, semer, semer et ne pas voir le fruit de sa semence, de la semence qu'il répand. Il ne voit pas les fruits. C'est quelqu'un d'autre qui va ensuite ramasser les fruits. Et parfois, il n'y a pas de fruits. J'ai lu ça aussi dans les récits des premiers missionnaires en Chine, qui ont eu d'énormes difficultés. C'était avec les pères Colomban, si mes souvenirs sont exacts. Au début, ils ont eu d'énormes difficultés à cause de la différence de culture, surtout. Ils n'arrivaient pas à convertir les âmes. Et les missionnaires qui se sont échinés pendant des années et des années dans des conditions physiques épouvantables, beaucoup sont morts martyrs, et les conditions physiques épouvantables à cause de la dureté du climat, la dureté des coutumes, le mépris des Chinois contre les étrangers, eh bien, ils ont prêché, ils ont continué de semer dans la terre. Et certains ont dû attendre très longtemps avant de voir les résultats. Et la plupart d'entre eux n'ont pas vu les résultats de leurs propres yeux. Ils ont vu les résultats dans la génération future, parfois deux, trois générations plus tard. Vous voyez? Par contre, il y a d'autres circonstances où les missionnaires ont vu les résultats tout de suite. On voit très bien, par exemple, avec les premiers discours de Saint-Pierre. Lorsque Saint-Pierre prêche son premier discours pour la Pentecôte, mais tout de suite, il y a des milliers de baptisés, mais ce n'est pas toujours le cas. Un texte de Saint-Augustin, au-delà de la page 51. Les apôtres et les prophètes ont travaillé à des époques bien différentes, mais ils auront part à la même joie, recevront tous pour récompense la vie éternelle. Les disciples disent donc de la moisson, qui est le terme de tous les efforts qui tendent à la vérité, qu'elle se fera après qu'aura cessé la domination des quatre éléments. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même si les prophètes, les apôtres, les missionnaires, les prédicateurs prêchent sans voir des résultats, ils participeront à la même joie, ils participeront à la même récompense qu'est la vie éternelle parce qu'ils travaillent pour le même supérieur. Oui. Le bon Dieu ne demande pas à ses prêtres des résultats. On n'est pas dans le monde moderne. Le bon Dieu demande à ses prêtres de remplir leur devoir d'État. D'abord des hommes de prière et de pénitence. Ensuite de prêcher. Ce n'est pas le prêtre qui convertit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va convertir en utilisant le prêtre comme un instrument. Parfois, il n'y a pas de résultat. Okay. On le voit aussi pour nous, prêtres, actuellement, je pense qu'il faut méditer sur ces choses-là. C'était très dur pour les premiers missionnaires qui n'ont pas dû voir, dans certains cas, le résultat de leurs travaux apostoliques tout de suite. C'est un peu pareil pour nous, quand on voit le tout petit nombre de nos fidèles, surtout dans la mouvance évacantiste, la mouvance non unacum, c'est un peu décourageant. Mais lentement, lentement, le travail se fait, mais c'est extrêmement lent. Mais on ne travaille pas pour nous, on travaille pour le bon Dieu. Je vois, pendant combien d'années, ici, dans la région de Padiès, où je suis, dans le Tarn, je suis resté avec 3-4 fidèles le dimanche, c'est tout ce que j'avais. Bon, maintenant, il y en a nettement plus, beaucoup de jeunes viennent, commencent à venir. Et ce dimanche-là, on était encore 15 à la chapelle, je crois, 15 ce matin, donc beaucoup de jeunes, ça fait bien plaisir. Mais c'est très très lent. C'est pareil pour arriver à remplir les retraites, c'est quand même pas la mer à boire que de remplir une retraite de 6 chambres, 6 personnes, mais j'ai du mal à remplir les retraites. Et encore une fois, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? C'est une notion complètement moderne où on veut voir les résultats par nous-mêmes. Voyez? Et on peut faire une comparaison avec un autre point que vous allez peut-être comprendre ce que j'essaie de vous faire dire là, de dire et d'expliquer ici. C'est la même chose pour la messe. Souvent, les gens qui ne sont pas habitués à la Sainte Messe traditionnelle nous disent, mais monsieur l'abbé, pourquoi ce latin? Moi, je ne comprends pas le latin. Et je leur réponds toujours, Dieu le comprend parfaitement bien. Mais moi, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas à vous que je parle pendant la messe. Pendant la Sainte Messe, ce n'est pas aux fidèles que je m'adresse. Pendant la Sainte Messe, je m'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui, comprend parfaitement le latin. La messe est tournée vers le tabernacle parce que c'est à Dieu qu'on s'adresse. C'est comme le bréviaire. Vous m'avez frappé dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui a dit son bréviaire comme religieuse pendant des années et des années, et qui, d'après ce que j'avais lu, ne possédait pas le latin. Mais ça ne l'a pas empêché de dire son bréviaire en latin tous les jours, avec les sœurs qui étaient dans son couvent, ou dans ses couvents, parce qu'elle s'adressait à Dieu. Vous voyez, et on s'adresse à Dieu, l'important c'est que notre cœur soit tourné vers lui. Ben, ça n'empêche pas, bien sûr, d'étudier les choses pour pouvoir comprendre, au moins autant que faire se peut, les prières que l'on prononce à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je m'adresse à Dieu, c'est à lui que je parle, même si les fidèles autour de moi ne comprennent pas. Il faut se mettre dans la messe et participer, monter dans le train qui va vers le bon Dieu. Je ne comprends pas, je suis dans ce train, je ne comprends pas pourquoi le train prend telle direction ou telle direction, prend tel aiguillage ou tel autre aiguillage, mais je sais que le conducteur du train me mène au but final qui est la gare d'arrivée. L'important c'est ça, c'est que je sois dans le bon train. À partir du moment où je suis dans le bon train, je dois faire confiance à ceux qui me dirigent. Le Verbe incarné redresse dans l'esprit de ses fidèles cette pensée qui n'est pas conforme à la vérité en leur disant « Ne dites-vous pas encore 4 mois, la moisson vient, et moi je vous dis, levez les yeux. » Dans plusieurs endroits de l'Écriture, le Verbe divin nous fait cette recommandation d'élever nos pensées qui se traînent ordinairement sur les choses de la terre et qui ne peuvent pas s'affranchir sans le secours de Jésus. C'est-à-dire qu'on voit les choses avec un regard humain. On ne voit pas les choses avec un regard divin. C'est ce qui me frappe le plus dans la vie des saints. Ils voyaient toutes les choses sub specie aeternitatem. Ils voyaient toutes les choses sous un regard éternel. Et nous, on regarde toutes les choses sur un regard divin. On veut voir des résultats tout de suite. Notre Seigneur Jésus-Christ ne travaille pas de cette façon-là. Notre Seigneur Jésus-Christ travaille pour l'éternité. Il a toute l'éternité avec lui. Lui, il a du temps. Nous, on n'a pas de temps, mais lui, il l'a. Alors, on travaille pour notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de temps ça va durer? C'est comme les fidèles, et qui sont très nombreux, qui me posent cette question fréquente. Vous savez combien de temps cette crise terrible dans l'Église va durer? D'abord, ce n'est pas une crise dans l'Église. L'Église ne peut pas être en crise puisqu'elle est divine. C'est une crise des hommes, l'Église. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Mais vous savez, ça fait déjà 60 ans que ça dure. Pratiquement 1960. Bon, depuis 1960, très bien. Eh bien, même si ça dure depuis 60 ans, ça durera longtemps, le temps que le bon Dieu voudra. L'important, c'est que nous soyons prêts. Est-ce que le bon Dieu me demande de convertir le monde entier? Non. Qu'est-ce que me demande le bon Dieu? Le bon Dieu me demande d'être en état de grâce, de vivre en état de grâce, et en tant que prêtre, de prêcher la vérité, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dépend de moi, avec la grâce du bon Dieu, bien sûr. Le bon Dieu ne me demande pas de convertir tous ceux qui m'écoutent. Ça, ce n'est pas mon travail. Convertir ceux qui m'écoutent, c'est le travail de Dieu. Le prêtre n'est qu'un instrument. Et lorsque le prêtre a fait son devoir d'État, qu'est-ce qu'il doit dire? Je suis un serviteur inutile. Donc il faut nous obliger à voir les choses avec un regard divin. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Notre intelligence n'est pas capable de comprendre les pensées de Dieu. C'est qu'il faut s'abstenir de poser trop de questions à Dieu. C'est une tendance qu'ont tous nos fidèles. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait rien? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous envoie pas un nouveau Saint-Pélice? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne nous envoie pas en France un nouveau Saint-Louis? Il ne faut pas poser toutes ces questions. Qu'est-ce que me demande le bon Dieu? De mettre un Saint-Louis à tête du royaume de France? J'en ai pas les pouvoirs, ni vous. Qu'est-ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? D'avoir un nouveau Saint-Pilice comme pape? Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Qu'est-ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? De vivre en état de grâce et de faire resplendir la foi catholique dans tout ce que nous faisons. Il faut que les gens qui nous entendent, qui nous voient, qui sont en contact avec nous, puissent voir, sentir, comprendre notre Seigneur Jésus-Christ derrière tout ce qu'on fait. Voilà ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu demande à ce que nous fassions notre devoir d'État. Il ne demande pas forcément des résultats. Il n'y a pas des résultats impératifs à obtenir. Est-ce que je fais mon devoir d'État de prêtre? Est-ce que les gens qui m'écoutent font leur devoir d'État de père de famille, de mère de famille, de jeune, d'enfant? Quel que soit leur devoir d'État, est-ce qu'ils remplissent leur devoir d'État de tous les jours? Oui, alors c'est bon. Mais je n'ai pas de résultat, ça ne fait rien. Le bon Dieu, le jour de votre mort, ne va pas vous demander vos résultats apostoliques. Combien de personnes avez-vous converti? Non, ce n'est pas la question qu'il va vous poser. Le jour de votre mort, le bon Dieu va vous poser une question. Êtes-vous en état de grâce? Si je peux répondre affirmativement, oui, Seigneur, je suis en état de grâce avec votre grâce, alors j'ai déjà rempli mon devoir d'État. Regardez, c'est un autre exemple qui m'a beaucoup frappé quand j'étais en Espagne, Saint-Jacques, le grand Saint-Jacques, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'arrivait pas à convertir les Espagnols. Il était complètement découragé à tel point que la Très Sainte Vierge Marie, c'est la première apparition de la Très Sainte Vierge d'ailleurs, la Très Sainte Vierge Marie lui apparaît je crois que c'était à Saragosse, lui apparaît à Notre-Dame du Pilier, et lui fait la prophétie que la foi catholique va arriver en Espagne. C'est ce qui s'est passé. Et pendant des années, Saint-Jacques a prêché en Espagne sans avoir beaucoup de résultats. Vous voyez ? Ça, je l'ai vu moi-même quand j'étais en Espagne. Alors, Dieu sait si c'était difficile parce que justement, on avait très peu de résultats apostoliques. Il y a des endroits où il y a beaucoup de monde, des endroits où il y a très peu de monde. Qu'est-ce qui est plus facile ? De rester dans une paroisse dans laquelle il y a des centaines et des centaines de jeunes ou de rester dans une paroisse où il n'y a presque personne à la messe ? Quel est le prêtre qui va sanctifier davantage? Celui qui reste dans une paroisse où il y a énormément de gens, énormément de fidèles, énormément de résultats apostoliques, ou rester fidèlement à son poste, même s'il n'y a que 3 ou 4 personnes qui viennent à sa messe ce dimanche. Vous voyez? Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut élever donc nos pensées et avoir pensé avec un regard d'éternité, penser aux choses telles que le bon Dieu les voit et pense à ces choses. C'est ça la sagesse. Le don de sagesse, c'est ça. C'est avoir les pensées de Dieu, que les pensées de Dieu deviennent nos pensées. Le bon Dieu pourrait, s'il le voulait, d'un coup de baguette, convertir le monde entier. Il ne le fait pas. Le bon Dieu pourrait convertir Macron et en faire un saint demain matin. Le bon Dieu pourrait convertir Bergoglio et en faire un saint demain matin. Ça changerait bien les choses, ça arrangerait bien les choses. Est-ce qu'il le fera? Sans doute pas. Pourquoi? Il a ses raisons. Est-ce qu'il faut que je pose tous les matins la même question? Mon Dieu, pourquoi vous ne convertissez pas Macron? Pourquoi vous ne convertissez pas Bergoglio? Dieu a ses raisons qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? De remplir notre devoir d'État. Nul en effet ne peut obéir à ce commandement s'il reste l'esclave de ses passions d'une vie sensuelle. Il ne verra point les champs blanchis par la moisson. Or les champs blanchissent lorsque le Verbe de Dieu, disent les Pères, répand sa lumière sur toutes les parties de l'Écriture auxquelles l'avènement de Jésus donne toute leur fécondité. Toutes les choses sensibles elles-mêmes sont comme des champs blanchis pour la moisson. Pour ceux qui élèvent les yeux, lorsque la raison nous montre dans chaque objet créé l'éclat de la vérité qui se trouve répandue sur toutes choses. On a planté, on a fait notre devoir d'État pour protéger la graine commence à lever, commence à donner même un épi, et puis le bon Dieu nous reprend avant que nous ayons tenu entre les doigts les grains mûrs qui viennent de l'épi qui a mûri au soleil. C'est pas nous qui allons recueillir les épis. On ne prêche pas pour nous. On n'est pas prêtre catholique pour soi-même. Faut pas oublier ça, qu'il y a 2 sacrements, mes bien chers frères, qui sont des sacrements pour la société. Sur les 7, il y en a 5 qui sont pour nous, mais 2 sont pour la société, le mariage et l'ordre. On se marie pas pour soi-même. Ça, quelle difficulté à faire comprendre ça aux jeunes mariés. Vous n'êtes pas mariés pour vous, vous êtes mariés pour les enfants, puisque la fin première du mariage n'est pas l'épanouissement mutuel des deux époux, mais la procréation et l'éducation des enfants, dans la foi catholique. Je ne suis pas prête pour moi. Je peux pardonner tous les péchés du monde sauf les miens. On est prête pour notre Seigneur Jésus-Christ. On se marie pour notre Seigneur Jésus-Christ, pas pour soi. Donc, il faut faire son devoir d'État. On met tout ça sur la table et ensuite que le bon Dieu, que la volonté du bon Dieu se fasse, même si je ne la comprends pas. C'est Dieu qui donne la fécondité. C'est Dieu qui va faire passer les champs d'un mûrissement à la moisson. C'est Dieu qui donne la moisson. Et les graines qui vont sortir des épis mûrs ne sont pas pour nous, mes bien chers frères. Ces graines qui vont tomber des épis mûris par le soleil sont pour Dieu. C'est pour Dieu qu'on travaille, c'est pas pour nous. Oui. C'est une notion qui est très difficile à faire rentrer dans la tête de nos fidèles, surtout des jeunes. Ils veulent voir des résultats. Ils sont prêts à faire des sacrifices énormes pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils veulent voir des résultats. Beaucoup de gens sont comme ça. Monsieur l'abbé, je prie, je vais faire pénitence, je vais faire des neuvaines, j'ai multiplié les actes de charité, j'ai multiplié les actes de pénitence. Je veux voir des résultats, mais je veux convertir telle âme. Attendez. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu convertir Judas. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire. Parce que Judas n'a jamais coopéré. La grâce de Dieu est toute puissante, mais la toute puissance de la grâce de Dieu coopère avec le libre arbitre. Malheureusement, nous avons le pouvoir de refuser cette grâce du bon Dieu, hélas. Celui qui recueille ses moissons spirituelles a un double avantage. Le premier, lorsqu'il reçoit sa récompense, et celui qui moissonne reçoit une récompense, c'est-à-dire la récompense future, il recueille le fruit pour la vie éternelle. Il s'exprime une disposition précieuse de l'intelligence qui est le fruit de la contemplation elle-même. Et on travaille pour le futur. Et c'est la question qu'il faudrait se poser tout le temps, c'est la question de se poser tous les saints. Quid ad aeternitatem? Cette action que je veux faire, cet acte que je veux poser, quelle est sa valeur devant mon éternité? C'est une question que me posent très souvent les gens dans mon bureau. Monsieur l'abbé, est-ce que je peux rester dans cette situation qui est la mienne actuellement? Est-ce que je peux rester dans tel travail, telle activité professionnelle? Est-ce que j'ai le droit de rester? Je pose toujours la même question. Est-ce que dans cette activité professionnelle qui est la vôtre maintenant, est-ce que vous êtes capable de rester en état de grâce? Oui, monsieur l'abbé, avec la grâce du bon Dieu, j'y arrive. Alors vous pouvez rester. Si au contraire on me répond, monsieur l'abbé, c'est impossible. Je vis au milieu de païens, je vis dans une poubelle, j'y arrive pas. Je me confesse souvent, je prie, je fais pénitence, mais j'y arrive pas, il y a trop de tentations autour de moi. Alors c'est que le bon Dieu ne veut pas que vous restiez là. J'avoue que je ne suis pas fier d'ailleurs, mais pour moi c'est un peu ce qui s'est passé quand j'étais étudiant en médecine avant de rentrer au séminaire en 72, 73, 74. Eh bien, je me suis vite rendu compte que j'étais dans l'université de médecine de Marseille et je me rendais bien compte que tous mes camarades de fac, tous, vivaient dans le concubinage, tous, pratiquement tous. Et je me suis dit, mais si je reste dans un milieu pareil, je ne suis pas plus malin que les autres. Je vais faire la même chose. Donc, je suis parti en courant pour pouvoir sauver mon âme. Et aujourd'hui, 60 ans ou 50 ans après, je ne regrette pas mon choix. Ce qui est évident, avec la grâce du bon Dieu, ben j'espère bien, avec la grâce du bon Dieu, je dis bien avec sa grâce, pouvoir sauver mon âme. Alors, sauver son âme en tant qu'étudiant en médecine, ça ne doit pas être facile tous les matins. C'était déjà pas facile autour des années 70, mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être? Donc, c'est la question que les parents qui m'écoutent doivent inculquer dans la tête de leurs adolescents. Quand mon fils, quand tu vas choisir, quand vous allez choisir un métier, quand vous allez choisir une direction professionnelle, quand vous allez choisir une école, une grande école peut-être à suivre, posez-vous cette question. Est-ce que je vais être capable, dans cette activité professionnelle que je veux choisir, dans cette université que je veux choisir, est-ce que je vais être capable de rester en état de grâce? Est-ce qu'il est possible pour un jeune complètement isolé dans une faculté moderne de rester en état de grâce? Je dis pas que c'est impossible. Moi, personnellement, je n'y arriverai certainement pas. Mais c'est possible en tant que tel. Cependant, c'est extrêmement difficile. C'est sans doute possible à condition qu'il y ait le soir, que ces jeunes qui sont en fac toute la journée, en faculté toute la journée, puissent se retrouver dans un milieu sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Se retrouver par exemple, ou parce qu'ils louent ensemble un appartement par exemple, et que ces jeunes catholiques se retrouvent ensemble tous les soirs, ils travaillent ensemble pour s'entraider, et ils prient ensemble, prient par exemple leur chapelet ensemble. J'ai connu des jeunes comme ça. Tous les soirs, sortis de la fac, chacun dans sa fac, ils se retrouvaient ensemble, ils lisaient le chapelet ensemble, ils travaillaient ensemble, ils s'entraidaient ensemble. Ils allaient à la messe ensemble pour les fêtes et pour le dimanche. Ou, deuxième solution, que ces jeunes, c'est pas toujours possible, mais quand les familles habitent dans les grandes villes, c'est possible à ce moment-là pour les jeunes de rentrer chez eux le soir. Mais les jeunes qui veulent faire des études universitaires, qui m'écoutent, qu'ils fassent surtout très attention à une chose. La mort de l'âme de l'étudiant, c'est les hôtels universitaires. Dans les dortoirs universitaires, c'est une véritable maison de passe, excusez-moi du terme, mais il n'est pratiquement pas possible pour ces jeunes de tenir le coup dans des milieux pareils. C'est ça qu'il faut éviter. Il est parfois utile, je dis parfois utile, de faire certaines grandes études, dans grandes écoles, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous devez être capable de rester en état de grâce. Et si vous n'êtes pas capable de rester en état de grâce, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Et puis avant de vous lancer dans les grandes études, commencez à y réfléchir à deux fois. Vous voyez ? Commencez à y réfléchir à deux fois. Est-ce que je vais être capable de rester en état de grâce ? Et est-ce que c'est vraiment ce que le bon Dieu veut pour moi ? Un fils de paysan qui veut continuer à conduire son tracteur pour essayer de faire des sillons à peu près droits dans les champs, en suivant l'exemple de son père, il peut arriver à sauver son âme relativement facilement. Dans un tracteur, il n'y a pas beaucoup de tentations. Par contre, celui qui veut faire une grande école dans une grande ville et se retrouver en vie universitaire pendant des années et des années aura beaucoup plus de mal à sauver son âme. Et le jour de votre âme, le bon Dieu ne va pas vous demander si vous sortez polytechnique. Il va vous demander si vous avez fait votre devoir d'état chaque jour. Il va vous demander d'abord si vous êtes en état de grâce. N'oublions pas ces choses-là. Donc c'est Jésus qui donne la fécondité, ne l'oublions pas. Dans toute doctrine, disent les pères, celui qui pose les principes est celui qui sème. D'autres à leur tour prennent ces principes, les méditent, les fécondent par de nouvelles considérations et procurent ainsi à leurs descendants l'avantage de moissonner et de recueillir des fruits qui sont parvenus à leur maturité. Et c'est surtout dans l'art des arts que nous pouvons voir l'application de cette vérité. On voit très bien comment des saints ont semé et leur semence a été utilisée après pendant des générations et des générations, c'est très clair chez saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est mort en 1274 en terminant la somme. Il n'a pas terminé complètement. La tertia pars, la troisième partie de la somme théologique, n'est pas terminée. Mais il a semé. Et cette somme théologique, aujourd'hui, 7 siècles, 8 siècles plus tard, elle est toujours utilisée. J'ai toujours la somme théologique dans mon bureau, je l'ouvre régulièrement et je puise à la source que sont les œuvres de saint Thomas d'Aquin, l'intelligence prodigieuse de saint Thomas, qui est prodigieuse parce qu'elle est catholique. Donc ici, les pères donnent certains exemples. Ceux qui ont semé, c'est Moïse par exemple, et les prophètes, qui ont prédit l'avènement du Christ. Ils ont prédit l'avènement du Christ qu'ils n'ont jamais vu. Moïse a annoncé la terre promise à tout son peuple, et n'a jamais mis le pied. Il l'a vu de loin, et n'a pas pu y rentrer. Dieu n'a pas permis que Moïse, le grand prophète Moïse, le plus grand saint de l'Ancien Testament, il n'a pas permis que Moïse puisse voir, puisse mettre les pieds dans la terre promise de Palestine. Il n'y a que Josué et Caleb qui ont pu y rentrer, de tous ceux qui avaient quitté l'Égypte. Tous les autres sont morts. Leurs os sont blanchis dans le désert. Les moissonneurs sont les apôtres qui ont reçu Jésus-Christ contempler sa gloire. La semence, c'est la connaissance que nous donne la révélation du mystère qui a été caché comme enseveli dans le silence des siècles passés. Les chants sont les livres de la loi et des prophètes qui n'avaient point leur clarté pour ceux qui n'étaient point capables de comprendre l'avènement du Verbe. Donc à la base, l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça m'avait frappé dans la vie de Monseigneur Lefebvre, quand il était en Afrique. Une des premières choses qu'il a fait, c'est faire venir en Afrique des religieuses contemplatives. Des religieuses contemplatives. Et dans l'esprit des peuples noirs à qui il parlait, c'était très difficile à comprendre. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qu'une religieuse puisse passer sa vie en prière sans avoir une action visible extérieure. Et elle fait venir des carmélites, entre autres. Des carmélites, justement, pour prier. Parce qu'il fallait absolument que la graine que lui, missionnaire, et ses missionnaires qui étaient avec lui plantaient, elle puisse fructifier. Et pour ça, il y avait besoin des prières des prières des sœurs. Il a fait venir aussi venir des sœurs actives, mais d'abord des sœurs contemplatives. Et l'Église a toujours enseigné que la contemplation est plus importante que l'action. Il ne faut pas une contemplation complètement coupée de l'action, c'est trop dangereux. C'est pour ça que saint Thomas enseigne que la vie la plus parfaite, c'est une union entre la contemplation et l'action. On est corps et âme. Donc l'action est pour le corps. Le corps, comme le corps est uni à l'âme, il faut qu'il y ait avec l'âme une contemplation qui soit unie à l'âme. Il faut les deux. Mais la vie contemplative est supérieure à la vie active. Ça, c'est quelque chose que l'esprit de Vatican II est absolument incapable de comprendre. C'est ça qui a tué la Vatican II. Les gens de Vatican II sont tombés dans l'hérésie, sont tombés dans l'oubli complet de la foi catholique parce qu'ils sont tombés dans l'activisme. Tombés dans l'activisme. L'activisme, c'est ça. C'est la tentation de vouloir remplacer la prière par l'action. Si je me coupe de la vie de prière, je me coupe de la grâce, tout simplement. Me coupant la grâce, je me coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc on le voit chez Moïse, chez les prophètes, puis après chez les apôtres, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prêché, ils sont tous passés par le martyr, sauf saint Jean. Vous voyez ? Il y en a qui ont eu beaucoup de succès apostoliques, il y en a d'autres qui n'en ont pas eu. Il y en a qui sont morts très jeunes. Et les plus certains des très très grands saints sont morts très jeunes. Ça m'a toujours frappé chez saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est mort en 1274. Il avait, je crois, la cinquantaine. Quand on voit déjà la somme extraordinaire d'écrits théologiques de toute première volée, toute première valeur qu'il a écrite, on peut imaginer ce qu'aurait pu écrire saint Thomas d'Aquin s'il avait vécu pendant un siècle. Et le bon Dieu n'a pas permis. Il avait d'autres plans. Il n'a même pas permis que saint Thomas puisse terminer son œuvre magistrale, la somme théologique. Elle a été terminée par son secrétaire Reginald. Encore une fois, les pensées de Dieu n'en sont pas les nôtres. Il faut savoir se taire devant ces choses-là. Ne pas poser encore une fois trop de questions au bon Dieu et dire au bon Dieu tous les matins, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. » On voit parfois des grands saints qui meurent tout à fait au début de leur vie apostolique. On peut se dire, mais pourquoi le bon Dieu n'a-t-il pas permis que ces grands saints puissent continuer leur travail apostolique pendant des années et des années ? C'est comme ça. Regardez le travail d'une sainte Jeanne d'Arc qui est morte à quel âge ? Elle avait 19 ans quand elle est morte, ou 20 ans. Hein, 1412, 1431, elle avait 19 ans quand elle est morte. Eh bien, humainement parlant, sa vie était un échec. Humainement parlant, et pourtant, surnaturellement parlant, elle a sauvé la France. Hein. Si sainte Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée par notre Seigneur Jésus-Christ, et si sainte Jeanne d'Arc n'avait pas accepté la grâce donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, on serait tous protestants en France. Hein. On a besoin d'une autre sainte Jeanne d'Arc. Mais sainte Jeanne d'Arc, elle a bataillé, elle bataille, et Dieu donne la victoire. Ce n'est pas nous qui obtenons la victoire à la force du poignet. Donc il faut méditer, vous voyez. Ce temps de méditation est absolument, absolument nécessaire. Je me permets de vous rappeler cet exemple que j'avais trouvé dans la vie du saint curé d'Ars, qui m'avait beaucoup frappé, que je vous ai souvent déjà cité. Ce confrère du saint curé d'Ars qui vient le voir un peu désolé parce que il n'arrive pas à tout faire, il a beaucoup de travail avec ses ouailles. Et le saint curé d'Ars lui pose la question, mais mon père, monsieur l'abbé, mais monsieur le curé, mais combien de temps de méditation est-ce que vous passez par jour? Et le curé lui dit, mais je passe une heure de méditation tous les jours. Et le Saint-Curé d'Ars lui a dit, passez-en deux, et vous aurez le temps de tout faire. Passez-en deux, et vous aurez le temps de tout faire. Quel drame de voir, j'ai connu des prêtres comme ça. J'ai pas le temps de faire ma méditation, parce qu'il y a trop de travail. Je préfère m'occuper des âmes, je préfère baptiser, je préfère confesser, je préfère me lancer dans des conférences à droite et à gauche, même si j'ai pas le temps de faire ma méditation. J'ai même hélas connu des prêtres qui avaient laissé tomber le bréviaire, sous prétexte qu'ils n'avaient pas le temps. Trop d'apostolat. Ils n'ont pas compris que leur premier apostolat, c'est l'apostolat de la prière. Voilà pourquoi l'Église a demandé, sous peine de péché mortel, aux prêtres de dire son bréviaire tous les jours. Que chaque page, chaque petite heure du bréviaire qui ne prend que 5 minutes, la petite heure de tierce par exemple, ou de nonne, sont des heures qui ne prennent que quelques minutes, et ça prend 5 minutes à peu près pour dire l'office de tierce, et bien une obligation sous peine de péché mortel. un prêtre catholique qui omet l'office de tierce par paresse comme une faute grave. On ne peut pas célébrer sa messe dans cet état. Pourquoi ? Pour bien faire nous faire comprendre que la vie contemplative est la semence de la vie active. Pas de vie active sans les fondations. La vie contemplative est aux fondations, ce que la vie active est au mur et au toit de la maison. On voit les toits, on voit les murs de la maison, on ne voit pas les fondations. Qu'est-ce qui est plus important ? Le corps de la maison ou les fondations qui sont en dessus ? Tant qu'il y a les fondations, on peut construire. Mais s'il n'y a pas de fondation, bon, ça ne sert à rien de construire, parce qu'au premier coup de vent, tout va tomber. Avançons, celui qui sème, celui qui moissonne partageront la même joie. Lorsque dans la vie future, le chagrin et la tristesse seront complètement disparus. C'est ce qui a commencé à se réaliser lorsque Jésus fut transfiguré dans la gloire et que les moissonneurs, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean et les semeurs, Moïse et Élie, se livraient à une joie commune en voyant la gloire du Fils de Dieu. On voit cette joie, par exemple, chez les trois apôtres Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean au moment de la transfiguration. Ils découvrent toute petite étincelle de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur se transfigure au sommet du Tabor. Ses vêtements deviennent blancs comme la neige. Son visage resplendit comme le soleil en plein midi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il est bon pour nous d'être ici, Seigneur. Construisons trois tentes, montons trois tentes. Il est bon pour nous d'être ici. Malheur à l'homme d'action dans l'Église catholique qui n'a pas compris qu'il doit d'abord être un homme de contemplation. Ne devenons pas stériles justement dans notre action parce qu'on a coupé l'action de la contemplation. Celui qui se lance dans l'action apostolique, qui n'a pas de vie contemplative, qui n'a pas de méditation tous les jours, qui n'a pas de récitation de son bréviaire tous les jours, qui n'a pas de vie contemplative, de vie spirituelle très forte, sera quoi qu'il se lance dans l'action ? Son action va être stérile. Vous voyez ? Il faut penser, il ne faut pas simplement donner les sacrements, il faut préparer les âmes de nos fidèles à recevoir les sacrements. D'où l'importance de la vie, l'importance de la prédication comme moyen de préparation pour les âmes pour recevoir les sacrements. C'est là où j'ai beaucoup souffert de voir parfois autour de moi des prêtres qui n'avaient pas compris ça et qui... Ils commençaient à préparer leur sermon, il était 11h du soir le samedi soir, pour le lendemain matin. Alors ils se précipitaient dans leur bureau le samedi soir, il était 10h30 du soir, 11h du soir. Ah, demain c'est dimanche, j'ai un sermon, qu'est-ce que je vais raconter ? Alors ils se précipitaient dans la bibliothèque, prenaient un sermonnaire, griffonnaient quelques notes au crayon sur un papier, puis donnaient un sermon. Ils n'avaient rien à donner, parce qu'ils n'avaient rien médité. Ils crachaient une nourriture qu'ils n'avaient même pas digérée eux-mêmes. Leur sermon était nul. Je dis toujours aux jeunes prêtres, méditez vos sermons. On a besoin de méditer. Et plus on médite les sermons, plus notre Seigneur Jésus-Christ prend la place du prédicateur. C'est la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ qui va fonctionner dans l'intelligence du prêtre. L'importance de la méditation. Méditez vos sermons. Il y a des prêtres qui m'écoutent, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais s'il y en a qui m'écoutent, qui méditent leurs sermons. J'avoue, j'en suis pas fier que j'ai dormi à tous les sermons à icône. Sauf quand c'était Monseigneur Lefebvre ou l'abbé Williamson. Tous les autres sermons, je dormais. Ça ne m'apportait rien du tout. Nul. Bon, par contre, Monseigneur Lefebvre, oui, m'a toujours apporté quelque chose parce qu'on sentait qu'il méditait ses sermons. L'abbé Williamson aussi m'a beaucoup apporté, beaucoup appris en matière de prédication. J'ai beaucoup appris de lui et surtout de Monseigneur Lefebvre. Donc celui qui a commencé c'est ce qui a commencé à se réaliser lorsque Jésus s'est transfiguré dans la gloire avec Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. J'ai déjà donné cet exemple. Examinez cependant si ces mêmes paroles, autre celui qui sème, autre celui qui moissonne, ne peuvent pas s'entendre des temps différents dans lesquels les hommes ont été justifiés lorsqu'ils étaient les uns disciples de l'évangile, les autres simples observateurs de la loi. Les uns les autres. On part cependant à la même joie, car c'est la même fin que se propose un seul et même Dieu, par le même Jésus-Christ dans un même esprit. Les apôtres sont entrés dans les travaux des prophètes et de Moïse. Ils les ont moissonnés d'après les instructions de Jésus, en recueillant dans leur grenier, c'est-à-dire dans leur intelligence, les vérités cachées dans les écrits de Moïse et des prophètes. Ceux qui recueillent, attention à cette phrase importante, ceux qui recueillent les fruits d'une doctrine déjà semée ou un partage plus éclatant, mais sont loin de travailler autant que ceux qui auront pondu la semence. Ceux qui ont le travail le plus ingrat, c'est ceux qui préparent le terrain avant de semer. Il faut arracher les cailloux, il faut arracher les mauvaises herbes, il faut creuser, il faut biner, il faut casser la terre, casser les mottes, arroser. Puis une fois qu'on s'est échiné à ça, à ce moment-là, le semeur peut arriver et venir semer sa semence. Mais si la terre n'a pas été travaillée, on perd son temps. Et qui est-ce qui a le plus de mérite? Le moissonneur qui vient récupérer et emmagasiner dans ses greniers les fruits du travail des autres, ou celui qui a semé, celui qui a préparé le terrain? Celui qui a préparé le terrain a eu le travail le plus ingrat. C'est lui qui recevra la plus grande récompense parce que justement il a plus de mérite. Je répète cette phrase importante. Ceux qui recueillent les fruits d'une doctrine déjà semée ont un partage plus éclatant, mais sont loin de travailler autant que ceux qui ont rompu la semence. Dieu va d'abord récompenser ceux qui ont eu un travail plus ingrat. C'est relativement facile de faire un travail apostolique quand on a des résultats extraordinaires. C'est facile de donner une conférence quand il y a des milliers de personnes qui applaudissent à tout rompre à la fin de la conférence. Mais c'est beaucoup plus difficile de donner la même conférence quand il y a trois pelés, deux tondus à la conférence et puis qu'ils dorment à moitié pendant toute la conférence. Parce qu'on n'arrive pas à les intéresser. Dans les deux cas, la doctrine a été semée. Mais dans le deuxième cas, le prêtre qui donne sa conférence et qu'il y a très peu de gens qui assistent à sa conférence et les gens dorment à moitié, il a prêché pour notre Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ peut obtenir la conversion des gens. Un texte de Saint Jean Chrysostome en bas de la page 51. Le fruit de cette moisson terrestre n'atteint pas la vie éternelle, mais cette moisson spirituelle nous accompagne toujours. Les moissonneurs sont le Christ et ses apôtres. Donc celui qui est envoyé dans les champs qui ont jauni sous le soleil d'été, c'est le Christ et les apôtres, au sens large, qui, par l'enseignement de l'Évangile, perfectionne les premiers principes des prophètes et par la foi et la grâce du Christ sanctifie à la fois les Juifs et les Samaritains et les conduisent à la vie éternelle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer ses prêtres, envoyer ses apôtres, envoyer ses disciples prêcher, baptiser. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et cette conversion, page 52 en haut de la page, cette conversion des Samaritains réjouit non seulement le Christ et les apôtres, mais également Moïse et les prophètes, parce que leur semence n'a pas été stérile, mais a été transformée par le Christ en une moisson abondante. Et ce n'est pas nous qui transformons la semence, la graine, en une moisson abondante. C'est Dieu. Nous, on plante, on prépare, on plante, on arrose. Ça s'arrête là. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. L'homme est incapable de faire croître quoi que ce soit par lui-même. Pensez à ces savants américains qui ont essayé absolument par tous les moyens de synthétiser un grain de blé. Quelque chose d'aussi simple qu'un grain de blé. Ils sont dit, on va arriver à trouver le mystère de la vie. Nous allons synthétiser un grain de blé. Ils sont descendus au niveau moléculaire. Ils ont décomposé le grain de blé en chaque molécule qui le compose. Ils sont descendus au niveau atomique, littéralement. Ils ont recomposé un grain de blé. Ils ont mis le même nombre d'atomes, ils ont mis le même nombre de molécules, je ne sais pas exactement le travail qu'ils ont fait. Ils ont tout réuni, repris exactement les mêmes composants, les ont mis dans la même enveloppe. Ils ont planté, ils ont arrosé, ils arrosent toujours, il n'y a rien qui a poussé. Parce qu'il manquait le principe de vie qu'ils étaient incapables de donner. Vous croyez que ça leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils tombent à genoux, qu'ils adorent d'abord notre Seigneur avant de planter leurs graines, et qu'ils comprennent que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie, pas les hommes? Non, ils n'ont rien compris. Ils continuent de travailler pour essayer d'obtenir le secret de la vie. Le secret de la vie est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul à l'avoir, ce secret. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ et lui seul qui va transformer une semence qui apparemment est stérile en une moisson abondante. Une moisson abondante. Ici, on s'est lancé dans la culture biologique, un petit peu dans le jardin autour. J'ai un de mes fidèles, mon servant de messe, qui est un féru de de jardinage, et qui a voulu commencer, on a mis une serre et il a commencé à faire des semis. Et on a planté entre autres des graines de radis, des graines de salade, qui sont toutes petites, minuscules, comme une tête d'épingle. Et c'est extraordinaire de voir cette toute petite, minuscule graine qui fait même pas un millimètre de diamètre. On voit là, les racines qui sortent et la petite pousse qui pointe au bout de son nez. C'est extraordinaire. Donc la semence n'a pas été stérile, mais a été transformée par le Christ en une moisson bonne. Mais sans la transformation donnée par le Christ, jamais la semence ne va être transformée en une moisson abondante. Je sème, je prépare le terrain, j'arrose, je prépare le terrain d'abord, je sème ensuite, j'arrose, et c'est Dieu qui va faire fructifier, qui va donner une moisson abondante. Dieu seul peut faire ça, pas nous. Si les prophètes n'avaient pas été des semeurs, cette femme n'aurait pu dire « Je sais que le Messie doit venir. » Pour elle, le fruit était déjà mûr. Et pour nous, est-ce que le fruit est mûr? Que je réalise à quel point je dois me jeter dans la miséricorde du bon Dieu. Surtout aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, quand on voit toutes les horreurs aujourd'hui, les horreurs sur le plan moral, ces 250 000 enfants qui sont coupés en rondelles dans le sein de leur mère, et puis à côté de ça, des choses complètement stupides. On laisse assassiner les enfants et puis on embête les automobilistes. Il y a quelques jours, j'avais le téléphone portable dans ma main en conduisant. Je ne téléphonais pas, j'avais le téléphone portable qui était pas branché. Je téléphonais pas, je n'envoyais aucun SMS, je recevais aucun message, rien du tout, mais je l'avais dans ma main. Un policier en moto m'a doublé, il a vu le téléphone dans ma main, il m'arrête, 3 points, 90 euros d'amende. Je dis, mais je ne téléphonais pas, monsieur, vous l'aviez dans votre main. Mais je ne téléphonais pas, vous l'aviez dans votre main, c'est la loi, 90 euros, 3 points. Voilà. Alors on assassine 250 000 enfants tous les ans en France, 250 000 infanticides, pas de problème, on a le téléphone dans sa main, même si on ne l'utilise pas, 90 euros d'amende, 9 points. C'est vraiment le monde à l'envers. Avançons, versets 39 à 42 du chapitre 4 de Saint Jean. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui sur les paroles de la femme qui lui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains étant donc venus auprès de lui, le prièrent de demeurer chez eux. Et il demeura 2 jours. Il y en eut un bien plus grand nombre qui crurent en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que vous nous avez dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu de nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, essayons d'un petit peu commencer au moins les explications de ce passage. On voit ici des Samaritains qui se convertissent alors qu'ils étaient méprisés par les Juifs. Par contre, on voit dans d'autres cas, là on voit très bien les Samaritains qui demeurent, qui veulent que notre Seigneur demeure chez eux. S'il vous plaît, restez avec nous, il demeurera chez eux 2 jours. Par contre, dans d'autres passages de l'Évangile, on voit les habitants du pays, alors que notre Seigneur vient pour prêcher, qui demandent à notre Seigneur Jésus-Christ de partir. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a guéri le possédé dans les tombes, dans les tombeaux, et que le troupeau de porcs qui était à côté a été pris par le démon et envoyé dans le lac, ils sont tous noyés dans la mer, dans le lac, les gens du coin ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ de partir, paniquer. Ici c'est l'inverse, notre Seigneur, Seigneur, restez avec nous. Et c'est un peu l'attitude des pèlerins d'Emmaüs, qui doit être notre attitude. Notre Seigneur Jésus-Christ est avec eux, il leur explique, il leur fait le catéchisme, il leur ouvre l'intelligence, il leur donne ce don de sagesse. Notre Seigneur fait mine de partir. Seigneur, restez avec nous, il s'est fait tard. Restez avec nous. Ce qu'il faut que nous disions, nous aussi, il faut dire souvent cette prière. Seigneur, restez avec nous. Et le prière de demeurer chez eux. C'est un passage très important. Est-ce que je demande souvent à notre Seigneur Jésus-Christ de demeurer dans mon âme? Ou est-ce qu'au contraire, je fais comme les gens modernes qui poussent notre Seigneur Jésus-Christ à partir le plus vite possible? Surtout, ne restez pas parce que, Seigneur, vous me dérangez, vous me gênez. J'ai d'autres choses à faire que m'occuper de vous. Ce fut donc sur le seul témoignage de cette femme et sans avoir vu aucun miracle qu'ils sortirent de la ville et prièrent Jésus de rester au milieu d'eux. Les Juifs, au contraire, témoins de tant de miracles, non seulement ne cherchèrent point à le retenir au milieu d'eux, mais mirent tout en œuvre pour le chasser de leur pays. Rien de plus mauvais en effet que l'envie et la jalousie. Rien de plus pernicieux que la vaine gloire qui corrompt et détruit tous les biens qu'elle touche. Notre Seigneur Jésus-Christ fait des miracles par centaines devant les Juifs. Il remplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il explique par les paraboles ce qu'il est venu faire pour convertir les âmes, les amener au ciel. Ils ne se convertissent pas pour la plupart d'entre eux. Par contre, ici, on a ces Samaritains qui, à la suite de la Samaritaine Sainte Fautine, voient notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont vu aucun miracle. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait d'extraordinaire. Il a simplement prêché à cause de la parole de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il croit. Et en ce moment, il croit, mais il demande à notre Seigneur Jésus-Christ de rester chez eux pendant 2 jours. Et conséquence, il trouve la foi. Verset 41, « Ayant eu un bien plus grand nombre qui crurent en lui à cause de sa parole. » Il faut méditer là-dessus, mes bien chers frères. Bien sûr, méditer là-dessus. Plus loin, il dit, il y a le Père qui parle encore. Ils vont plus loin, ils reconnaissent qu'il est vraiment le sauveur du monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas un sauveur ordinaire comme l'ont été tant d'autres. Il s'exprime de la sorte pour l'avoir entendu seulement parler. Que n'aurait-il pas dit à la vue des miracles si nombreux et si extraordinaires qu'il opérait? Est-ce qu'il faut se poser la question? Il faut se poser cette question. Si d'autres personnes autour de moi, qui sont dans la fange du péché jusqu'au cou, dans la fange de l'indifférence, dans la fange du paganisme, de la barbarie la plus complète, si ces personnes avaient reçu les mêmes grâces que moi j'ai reçues, ils seraient peut-être 10 fois plus 5 que moi. Pourquoi sont-ils saints, pas moi? Pourquoi est-ce que j'ai reçu ces grâces et pas eux? Si ces gens autour de moi avaient reçu les mêmes grâces que moi, ils seraient bien plus haut que moi, sans doute. Il faut y penser souvent, mes bien chers frères, à ces choses. Nous sommes des serviteurs inutiles, hein. Et si le bon Dieu avait donné aux gens qui sont autour de moi, qui bougent pas, qui font rien, qui cherchent absolument pas à sauver leur âme, si Dieu avait donné à ces âmes le 1/10 des grâces que j'ai reçues, moi, il serait peut-être bien plus 5 points. Marcher dans les voies des nations, c'est se laisser gagner par les croyances des nations et en faire la règle de sa conduite. Et qu'entrer dans les villes des Samaritains, c'est adhérer à la fausse doctrine de ceux qui admettent la loi, les prophètes, les évangiles et les écrits des apôtres. Et lorsqu'ils abandonnent leur doctrine personnelle pour venir trouver Jésus, il a leur permis de demeurer avec eux. Vous voyez donc, notre Seigneur Jésus-Christ a vu la bonne volonté. Quand il voit la bonne volonté, à ce moment, il donne ses grâces. Donc, posons-nous la question, est-ce que je réponds correctement aux grâces que le bon Dieu me donne tous les jours? Est-ce que je fais tout ce qui est possible pour répondre à ces grâces du bon Dieu? On a bien du mal à comprendre ces choses-là. Nous sommes des petites gens, mes bien chers frères. Quand on compare nos vies actuelles de chrétiens avec celles des martyrs des premiers siècles, quand on compare notre vie de chrétien avec celle des apôtres des premiers siècles, mais on est des petites choses, on n'était rien du tout. On avait vraiment des serviteurs inutiles. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons la grâce de la fidélité. C'est une grâce, attention. Ne croyons pas que nous serons capables de conserver la foi catholique par nos propres forces. Loin de nous cette tentation, mes bien chers frères. Par nous-mêmes, nous sommes capables que d'une seule chose, c'est d'abandonner notre Seigneur Jésus-Christ. La seule chose que nous sommes capables de bien faire, abandonner notre Seigneur Jésus-Christ, nous sauver. Rappelez-vous l'avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Pierre. Avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras trahi 3 fois. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Saint-Pierre n'a pas reçu le message. Si tous vous trahissent, au moins, pas moi. Et Saint-Pierre, 3 fois, a trahi. Et non pas avec un glaive de soldat sous le cou, non. L'accusation d'une petite servante. Tu étais l'un d'entre eux, je t'ai reconnu, tu étais au jardin des Oliviers. Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Alors, si Saint-Pierre a trahi 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ, combien de fois est-ce que moi je vais le trahir? Demandons, mes bien chers frères, ces grâces. Je vais terminer, ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Je n'ai pas terminé encore, malgré mon désir, je n'ai pas terminé le chapitre 4, nous verrons ça la prochaine fois. Il faudra sans doute toute cette année 2022, raison d'un cours par semaine, pour que je termine l'évangile de Saint Jean. Mais il vaut mieux aller doucement et arriver au but. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.